Bonsoir à tous. Je vous propose que nous commencions notre soirée. Il y a une seconde salle qui est ouverte et où il y a une retransmission de la soirée, vu le nombre que nous sommes ce soir. Bienvenue à tous et bienvenue pour cette 20e soirée d'éthique publique, la deuxième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous du premier mardi de chaque mois. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Ces soirées se veulent un peu comme des fenêtres sur les réalités sociales, politiques, internationales qui nous intéressent comme chrétiens, qui nous intéressent peut-être pas toutes au même niveau, mais qui pourtant nous concernent tous. L'objectif de ces rencontres, eh bien, c'est d'essayer de nous donner les uns aux autres quelques éléments de compréhension et d'analyse, de repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre recherche, personnellement ou bien avec d'autres. Et donc le point de départ, eh bien, c'est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, d'autres réflexions. Le mois prochain, nous reviendrons sur la situation sociale de notre pays. Quelles leçons tirées de ces dernières semaines, de ce conflit de la réforme des retraites? Peut-on et comment réformer notre pays? Comment s'y prendre? Et nous accueillerons, entre autres, Monsieur Geoffroy Route-Bézieux, chef d'entreprise et ancien président de l'UNEDIC. Je vous rappelle qu'il est désormais possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez, eh bien, être informé par mail du thème de la prochaine rencontre. De même, il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Alors ce soir, eh bien, nous allons élargir l'espace de notre tente et nous allons nous arrêter sur la situation des chrétiens du Moyen-Orient. Alors que vient de s'achever, il y a une dizaine de jours, à Rome, le synode sur les églises d'Orient. Votre présence nombreuse ce soir témoigne de l'intérêt que nous portons à nos frères chrétiens de cette région. Nous savons les liens anciens, les liens étroits, sous une forme ou sous une autre, qui nous lient les uns et les autres, personnellement ou avec d'autres, à telle ou telle communauté chrétienne dans l'un ou l'autre pays du Moyen-Orient. Alors que l'évolution de la situation au Moyen-Orient reste incertaine et porteuse de violence, ces dernières années auront mis en lumière, de manière plus forte encore, les communautés chrétiennes qui vivent dans cette région troublée. Les événements d'Irak, de Palestine, du Liban, d'Égypte particulièrement, ont montré des chrétiens inquiets face à l'avenir. Alors ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les préoccupations quant à la situation des chrétiens dans cette région. Mais peut-être qu'il y a 20 ans encore, le sujet ne semblait préoccuper que quelques cercles restreints. Et ces dernières années, beaucoup ont découvert, à travers les conflits qui ont ensanglanté cette région, que des chrétiens vivaient, depuis toujours, sur ces terres arabes. Et désormais, même si la situation est différente selon les pays, bien sûr, tout le monde s'accorde pour dire que la situation est grave pour ces communautés, une dizaine de millions environ, confrontées à des réalités difficiles, voire tragiques, et nous avons tous en tête ce soir le drame terrible qui a frappé la communauté syriaque catholique à Bagdad dimanche dernier. Alors, sans considérer l'évolution actuelle comme une inexorable fatalité, l'avenir qui se dessine pour les chrétiens d'Orient est lourd d'incertitudes. Ceux-ci sont-ils inexorablement conduits à quitter leur terre, ne laissant derrière eux que des communautés témoins, gardiennes de musées et de lieux d'une mémoire historique ancienne? À cet égard, Je crois que le dynamisme des communautés chrétiennes du Liban et celle d'Égypte sont déterminantes pour la survie des autres communautés de la région, tout comme la possibilité pour les églises de maintenir des institutions scolaires et éducatives. Les conséquences d'une disparition progressive des chrétiens seraient, nous le savons, très importantes. Quelle serait d'abord l'évolution du monde arabo-musulman sans les interrogations portées en son sein par les chrétiens? Sans oublier la relation entre juifs et musulmans, en Israël et Palestine, en l'absence d'une tierce communauté permettant d'éviter le face-à-face. Mais c'est aussi le monde chrétien, évidemment, dans son ensemble, qui serait profondément affecté sans son pilier d'origine, foyer des premiers conciles. Alors évidemment, derrière ces incertitudes et ces questions s'en cachent beaucoup d'autres, que nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer ce soir, celle de l'évolution de l'islam dans cette région, celle aussi des divisions entre chrétiens et des efforts pour avancer vers davantage d'unité, celle aussi peut-être du rôle du Vatican. De cela et de bien d'autres choses encore, le dernier synode a dû parler, et je me réjouis beaucoup d'accueillir à votre nom nos invités qui ont tous deux participé comme experts à ces travaux. Ils pourront nous dire comment ils ont perçu ce synode et aussi plus largement comment ils voient l'avenir pour ces communautés chrétiennes d'Orient. Je suis très heureux d'accueillir, et ce n'est vraiment pas une formule de politesse, le père Samir Halil. Faut-il encore te présenter, Samir, en ces lieux? Le père Samir Halil est un chrétien arabe, égyptien. Il est entré dans la Compagnie de Jésus, si je ne me trompe, en 1955. Depuis lors, il n'a pas cessé, entre autres choses, de faire connaître le patrimoine arabe chrétien, dont il deviendra l'un des plus grands spécialistes. Il fondera pour cela le CEDRAC, le Centre de Documentation et de Recherche Arabe Chrétienne, à Beyrouth. Également grand connaisseur de l'islam et du dialogue islamo-chrétien, il enseigne notamment à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, mais aussi à l'Institut Pontifical Oriental de Rome et ici au Centre Sèvres. Sans parler des autres lieux de la planète où il est intervenu, il serait d'ailleurs sans doute plus rapide de faire la liste des lieux où il n'a pas encore été. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, et je ne ferai que citer « Les raisons de ne pas craindre l'islam » qui est paru en 2007 aux presses de la Renaissance, ouvrage que vous pourrez trouver au stand de librairie à la sortie. Le père Samir Halil a joué un rôle très important de ce synode, notamment à l'occasion des travaux préparatoires. Tu sais combien, cher Samir, je me réjouis beaucoup que tu sois avec nous ce soir. À ma droite, Madame Annie Laurent, vous connaissez également fort bien cet Orient compliqué que vous scrutez depuis des années, journaliste, écrivain, docteur en sciences politiques, vous vous intéressez au dialogue islamo-chrétien et à ses conséquences politiques. Vous connaissez bien les pays de la région, particulièrement le Liban, où vous avez vécu et travaillé plusieurs années, et je me souviens d'avoir lu avec beaucoup d'intérêt, au milieu des années 80, votre ouvrage « Guerre secrète au Liban », je tentais d'y comprendre quelque chose dans cette complexité du conflit libanais, et cet ouvrage m'avait beaucoup marqué. Vous portez depuis longtemps ce souci, et vous nous en direz un mot tout à l'heure, de l'avenir des communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Comme l'indique l'un de vos récents ouvrages, les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître aux éditions Salvator, ouvrage que l'on pourra également se procurer à la sortie. Merci beaucoup d'être venu de Marseille pour partager ce temps avec nous ce soir. Alors, quel avenir pour les chrétiens d'Orient? Eh bien, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Madame Annie Laurent, pour 20 minutes environ. Avant, évidemment, de donner la parole au père Samir Halil, et puis, comme nous en avons l'habitude, d'engager le débat tous ensemble. Donc, je vous laisse la parole à Annie Laurent, peut-être, pour nous dire peut-être les raisons de votre intérêt pour les chrétiens d'Orient, avant de nous faire une présentation de cette mosaïque des différentes communautés dans cette région.
Merci mon père, merci de votre accueil si amical et bonsoir à vous tous. Oui, donc ça fait exactement 30 ans que je suis au contact des communautés chrétiennes du Proche-Orient. 30 ans cette année, et c'est au bout de 30 ans que j'ai été invitée à participer à ce synode. C'est quand même pas rien. Mes premiers voyages ont eu lieu en 1980, donc le premier en Égypte et le second, quelques mois après, au Liban. Et lors de ces deux voyages, où j'étais invitée dans des familles chrétiennes, grecques catholiques au Caire et puis maronites au Liban, j'ai découvert d'abord l'existence des chrétiens au Proche-Orient, dont j'ignorais absolument tout, et puis, bien sûr, leur complexité. Et donc, depuis, je travaille dans ce domaine-là. Quand j'ai publié mon dernier livre, « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?», j'ai été frappée par certaines remarques qui m'ont été faites à Marseille, où je vis, notamment par quelques amis, qui m'ont dit « on doit te faire un aveu, c'est que nous ignorions qu'il y avait des chrétiens au Proche-Orient ». C'est quand même incroyable. Enfin bon, en tout cas, c'est cette découverte il y a 30 ans qui m'a incitée à choisir comme thème de doctorat, comme intitulé de ma thèse de doctorat, le Liban et son voisinage, et à continuer à travailler sur cette question. Alors j'avais découvert aussi chez les chrétiens du Proche-Orient un sentiment d'abandon. Non seulement on ne les connaissait pas, mais ceux qui les connaissaient semblaient les abandonner, et ils le vivaient très douloureusement, surtout au Liban, où on considère la France comme la tendre mère, vous savez. Donc voilà. Alors, donc là, il y a 2 ans, j'ai voulu faire ce livre un peu comme une dette envers tout ce que ces chrétiens m'ont apporté au fil des ans. C'est vrai que j'ai énormément reçu d'eux, sur les plans intellectuels, humains et spirituels. Et donc, il me fallait les remercier. J'ai donc choisi d'abord de présenter ces églises et dans leur complexité. C'est vrai que l'Orient est complexe. Alors j'ai une devise de travail qui est clarifier et non pas simplifier. Il faut clarifier cette complexité pour la rendre compréhensible. Si on la simplifie, à mon avis, on la déforme. Et j'essaie d'appliquer cette devise à tous mes travaux. Alors, donc, je présente dans la première partie de mon livre les 6 églises de rites orientaux, plus l'église latine qui est présente là-bas aussi, et qui s'est très largement inculturée, il faut bien dire. Elle joue un rôle très important, c'est vrai. Et j'ai essayé d'être très claire dans cette présentation en remontant aux origines de ces églises. Pourquoi il y a tant d'églises? Pourquoi cette multiplicité? Quelles sont leurs racines? Donc je reparle des conciles qui ont entraîné les divisions entre chrétiens, les relations parfois troublées avec Rome, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Et je présente également leur organisation actuelle, ainsi que bien sûr avec des chiffres, des statistiques. En quelque sorte, c'est le panorama des communautés chrétiennes au Proche-Orient aujourd'hui que je présente. Et je voudrais faire une remarque personnelle. Concernant cette diversité, cette complexité, pour ma part, je porte sur elle un regard positif. Je parle de mosaïque. La mosaïque, c'est une œuvre d'art, c'est beau, une mosaïque. Et vous savez, dans l'Église, on n'a jamais assimilé unité à uniformité. Et lorsque l'unité sera faite entre les chrétiens, un jour ça viendra, eh bien, il faudra que cette diversité demeure. C'est une très grande richesse pour l'Église universelle. L'Orient ne peut pas vivre sans l'Occident et vice-versa, comme le disait si bien d'ailleurs le pape Jean-Paul II. Donc voilà, un regard positif sur cette réalité multiple et complexe, et je voudrais vous inviter à entrer dans cette démarche donc de connaissance des chrétiens du Proche-Orient et voilà, les connaître, essayer de les aimer. Si vous pouvez aller là-bas, c'est très important. Vous serez sans doute souvent édifié, puis c'est un lieu de ressourcement pour nous, chrétiens, bien entendu. Voilà, alors ensuite, dans ce livre, le cœur de mon livre, c'est les défis redoutables, qu'on appelle souvent existentiels, auxquels les chrétiens du Proche-Orient sont confrontés aujourd'hui. Alors, parmi ces défis, il y en a 2 qui sont les plus importants. C'est la question d'Israël, bien sûr. Vous savez, en 1948, quand Israël est apparu au Proche-Orient, le déséquilibre qui s'en est suivi, je pense qu'en Occident, on n'en a pas pris suffisamment la mesure. J'ai l'habitude de dire que le projet d'Israël, qui est un projet confessionnel, a à sa manière contribué à reconfessionnaliser une région qui n'était pas stabilisée quant à son identité, une région qui se cherchait après 400 ans de domination ottomane, notamment sur le monde arabe, et aussi après la Première Guerre mondiale, les mandats, les protectorats, etc. Donc voilà, la question d'Israël, elle est très très importante, et je pense qu'en Occident, on n'a pas pris la mesure des retombées de ce nouvel arrivé, si vous voulez, au Proche-Orient. Alors l'autre grand défi, bien entendu, on en parle beaucoup, celui-là, c'est la question de l'islam, l'évolution contemporaine de l'islam. Le père Samir nous en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que pour les chrétiens, c'est un véritable défi, surtout à cause de l'islamisme qui précipitent leur départ, et c'est d'ailleurs une des causes qui ont fait que le pape Benoît XVI a convoqué ce synode. L'émigration est vraiment un fléau qui touche les communautés chrétiennes au Proche-Orient. Alors, tout à l'heure, mon père, vous avez parlé des chrétiens arabes, mais en fait, il n'y a pas que des arabes chrétiens au Proche-Orient. Il y a aussi les Turcs, les Iraniens, il y a des Arméniens. Et toutes ces communautés étaient concernées par le synode qui s'est occupé de 17 pays en tout dans la région du Proche-Orient. Voilà, alors tous ces grands défis, il s'agit pour les chrétiens de là-bas de les relever. Mais comment relever ces défis quand on est si peu nombreux, le petit reste? C'est ce qui me touche beaucoup, c'est que depuis 20-30 ans, les églises là-bas, soutenues par le Saint-Siège d'ailleurs, ont décidé de prendre leur destinée en main, de ne plus subir passivement ce qui leur arrivait de l'extérieur. Et ça, c'est une attitude très positive qui fonde mon espérance. Là, j'en viens au sous-titre de mon livre. J'ai tenu à mettre ce sous-titre « Entre souffrance et espérance ». Souffrance, le mot pour moi veut exprimer le regard lucide que j'essaie de porter sur ces réalités douloureuses, qu'il ne s'agit pas de nier. Et espérance, bon, en tant que croyante, je ne peux pas ne pas être habitée par l'espérance, bien entendu. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Pour moi, ce ne sont pas des catégories, enfin, qui me conviennent, mais lucidité, et souffrance et espérance. Mais alors, cette espérance, elle n'est pas fumeuse, bien entendu. Elle repose sur des observations d'initiatives qui sont prises par les églises, justement, comme je le disais, pour ne plus subir leur sort, mais pour le prendre en main. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, il est très important, il est vital même, comme nous l'a dit le pape l'autre jour, que les églises, en particulier, à commencer par les églises catholiques, refassent l'unité entre elles. C'est le thème de la communion qui a été central au synode. Personnellement, c'est un thème qui m'a beaucoup touchée, et j'espère que nous pourrons développer cette question par la suite. Ce soir. Donc, il s'agit de refaire l'unité. Il faut que les chrétiens du Proche-Orient, si vous voulez, sortent du cloisonnement confessionnel dans lequel les avait enfermés, en quelque sorte, la période ottomane pendant 400 ans. Les chrétiens ont pu survivre, c'est vrai, dans le monde ottoman, mais autour de leur patriarche ou de leur hiérarchie. Seulement, ça les a séparés les uns des autres, et ça a été vraiment... Il y a eu des retombées très dommageables. Même les catholiques entre eux ne se connaissaient plus et parfois cultivaient de la suspicion, de l'inimitié. Il y a eu des rivalités entre les communautés. J'évoque là un souvenir tout récent, il y a un an et demi. C'était mon dernier voyage en Égypte. Le nonce apostolique m'avait organisé une conférence pour des prêtres à Alexandrie. Des prêtres d'Égypte, mais de tout rite catholique, donc des coptes et d'autres. Alors, une trentaine de prêtres. J'étais stupéfaite de voir que ces prêtres en Égypte ignoraient la situation de leurs coreligionnaires en Irak, au Liban, en Syrie, en Turquie. Vous voyez, ils m'ont posé énormément de questions. Bon, ben voilà. Donc, il s'agit de prendre l'initiative de provoquer un décloisonnement confessionnel. Il faut que les communautés se découvrent, apprennent à se connaître, à s'aimer et à s'entraider. C'est capital pour l'avenir des chrétiens du Proche-Orient. Ensuite, bien sûr, il faut prendre des initiatives pour maintenir la présence chrétienne en Orient. Comme vous l'avez dit, mon père, elle est très importante. L'Église s'inquiète beaucoup à l'idée que le berceau du christianisme pourrait un jour être vidé de toute présence humaine chrétienne et que ce ne soit plus que des pierres mortes que nous allions voir là-bas. Donc il y a un enjeu majeur pour toute l'Église. Et alors donc différentes initiatives concrètes sont prises par les hiérarchies locales. J'en énumère un certain nombre dans mon livre. Tout ça me fonde mon espérance, si vous voulez. Je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses, bien entendu, mais je pense que je ne vais pas trop m'attarder, comme ça on pourra laisser la place aux questions après.
Merci beaucoup, madame. On a bien compris l'importance de lire votre ouvrage pour avoir tout le fond de votre pensée. Je crois que vous avez bien mis en valeur l'importance, évidemment, que pose la question d'Israël et la question de l'islam. Et combien l'arrivée de l'État d'Israël a reconfessionnalisé, vous l'avez dit, une région qui n'était pas encore stabilisée, et puis évidemment les évolutions de l'islam qui ont des effets très importants sur la situation de la région. Alors comment relever ces défis? Eh bien, vous vous situez résolument quand même aussi dans l'espérance, en voyant comment les églises essayent de se prendre en main avec un certain nombre d'initiatives, et cet enjeu de l'unité si central au synode, avec cette expression qui est importante pour vous, sortir du cloisonnement confessionnel. Alors, Samir, Père Samir, eh bien, il y a peut-être des choses que vous voulez, bien sûr, compléter sur la situation actuelle, et puis revenir sur le synode, sûrement, et puis dire, voilà, face à l'avenir, comment on peut entrevoir l'avenir de manière réaliste, tout en se situant aussi dans l'espérance chrétienne.
Tout d'abord, pourquoi ce synode? Il y a eu des demandes, il y a un fait. Les chrétiens diminuent en chiffre absolu et en proportion pratiquement partout dans le Proche-Orient. Le cas du Liban, où la communauté chrétienne est la plus forte, on estime qu'on ne dépasse pas maintenant les 35% de la population localement. Alors que il y a une cinquantaine d'années, les chrétiens étaient légèrement plus que 50%. Ils émigrent et pourtant il n'y a pas de persécution au Liban, ni même de discrimination. C'est un pays qui peut servir de modèle même à d'autres pays, où malgré la différence de proportion, au Parlement, il y a 64 chrétiens et 64 musulmans. Les musulmans, après quelques hésitations de la part de groupes chiites, estime que la présence chrétienne est bénéfique et nécessaire. Mais c'est un fait que tout l'environnement étant insécure, étant troublant, les chrétiens se demandent la question que j'entends tout le temps, qu'on me pose sans arrêt, c'est pour nous, c'est pas un problème, notre vie, ça va. Mais qui nous garantit la vie pour nos enfants ici? Et c'est la question. En Syrie, où il y a un État plutôt laïcisant et où on essaye de ne pas faire de discrimination réellement, même juridique, entre chrétiens et musulmans, le nombre des chrétiens diminue et leur proportion plus encore. L'Irak, n'en parlons pas, chaque attentat entraîne le départ de milliers de chrétiens parce qu'ils se disent on n'a pas de garantie. C'est le seul groupe, il y a le groupe chiite qui a sa milice, ses milices, les sunnites ont des milices, les Kurdes ont une province autonome dans le nord bien protégé, les chrétiens n'ont ni milice, ni région, ni rien. Alors, on essaye de les faire partir des grandes villes, Bagdad, Mossoul, par des attentats. Je viens de lire qu'il y a eu donc 52 morts, dont 3 prêtres. Les chiffres se précisent au fur et à mesure, hélas. Il y a environ 400 000 chrétiens irakiens entre la Jordanie et l'Irak qui attendent l'issue. Certains rentreront, ceux qui le pourront émigreront à Detroit ou Chicago, où il y a de fortes communautés chaldéennes ou assyriennes. La Palestine est tombée à au-dessous de 1% de chrétiens. Même une ville comme Bethléem est en minorité. L'Égypte, c'est la plus grande communauté du Moyen-Orient en nombre absolu de chrétiens. Les discriminations sont continues. La dernière, même l'attaque de dimanche soir à l'église syriaque de Bagdad, on a dit, mais l'Égypte va être attaquée tant que vous n'aurez pas libéré les musulmanes prisonnières. C'est un mythe, il n'y a pas, ce serait trop long à expliquer, mais c'est simplement que une femme chrétienne, épouse de prêtre, a été remise par l'université Al-Azhar à l'église copte orthodoxe, parce que on pensait qu'elle s'était convertie à l'islam, mais elle ne s'est pas convertie, au dire de Lazar. Et la foule se précipite en disant, voilà, ils tiennent prisonnière une musulmane, une chrétienne qui s'est faite musulmane. Et on vit donc, l'émigration ne fait qu'augmenter. Or, on a l'expérience de la Turquie, par exemple, qui était au début du XXe siècle, qui avait plus de 20% de chrétiens, et qui maintenant est à 0,2%, un peu moins. C'est-à-dire 100 fois moins. La Palestine, qui est au moins 10 fois moins qu'il y a un demi-siècle. Il y a une vingtaine d'années, quelqu'un qui a écrit sous le pseudonyme de Jean-Pierre Valogne, je crois, a écrit un bouquin qui a fait scandale, Vie et mort des chrétiens d'Orient. Et même au Liban, je me trouvais alors, on a dit, mais enfin, c'est pas permis, cette vision pessimiste. Et lui disait, bon, moi je constate que les statistiques suggèrent une mort lente. C'est cela qui risque d'arriver réellement. Le synode, face à cela, le Saint-Père a voulu réunir l'ensemble des évêques et d'autres personnes, des chrétiens, des catholiques de tout le Moyen-Orient, y compris donc aussi un peu la Turquie, l'Iran, un peu parce qu'il n'y en a pas tellement, et d'autres, et l'Afrique du Nord, pour réfléchir quel est notre avenir. Comment, non pas pour adopter une attitude défaitiste, mais au contraire pour dire, face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle? On craignait beaucoup que ce ne soit une rencontre pour se plaindre. Il n'y a rien eu de cela. Le projet a été de dire, examinons la situation, pourquoi? Quelles sont les causes de tout cela? Bon, il y a deux causes principales qui ont été mentionnées. La situation de guerre continue dans la région du fait du conflit israélo-palestinien qui entraîne partout des tensions et des guerres, et certainement qui est une des occasions, sinon des causes, de l'option terroriste de beaucoup de musulmans, d'un certain nombre de musulmans. Le terrorisme est parti, après beaucoup de temps, de kamikazes palestiniens qui ensuite, pour se défendre, s'étant, la première fois ça a été après les Jeux Olympiques de Munich, mais donc quand ils ont vu qu'il n'y avait aucune solution après l'occupation de 67, voyant que personne ne réagissait des pays puissants, ils ont dit, ben on va faire comme les Israéliens, on prend notre situation en main. Ce n'était sûrement pas la solution, mais c'est à partir de ce moment que le monde a commencé à se dire, bon, il y a un réel problème. Mais ça ne le résout pas. Et c'est le synode, réfléchissant sur cette situation, répond, il n'y a de solution que dans la paix. Ça ne peut pas être par la violence. Ni la violence des Israéliens, ni la violence des Palestiniens, ni celle des autres groupements. Or, la paix ne peut être basée que sur la justice, et en l'occurrence s'agissant de questions internationales, que en conformité avec le droit international représenté tant bien que mal par l'ONU. Et la proposition est de dire, prenons les décisions, appliquons les décisions de l'ONU, lesquelles se résument essentiellement en trois points plus un point, à savoir deux États indépendants et sûrs, des frontières définitivement tracées et stable et conforme aux décisions de l'ONU, à la partition de l'ONU, et troisièmement, la sécurité tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens. À ceci s'ajoute une situation particulière de Jérusalem, où il y a deux projets possibles, l'internationalisation ou la partition entre les deux États avec contrôle international sur les lieux saints. En gros, c'est cela la proposition qui n'apporte rien de nouveau, mais qui dit en dehors de cela, il n'y aura que la guerre indéfiniment. Et on ne peut pas imaginer qu'un des deux partis se démette. Même si les Palestiniens sont plus faibles, ils ne renonceront jamais parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ceci, qui a commencé en 48, suscite une réaction aujourd'hui de violence, de radicalisme au sein de l'islam qui se sent complètement humilié, surtout quand l'islam réfléchit à son passé lointain mais glorieux. Vous vous rappelez peut-être, il y a 2 ans, il y a eu en France, à Paris, l'affaire Guggenheim, à propos d'Aristote au Mont-Saint-Michel. On peut se dire, c'est ridicule. Enfin, il y a eu des pétitions pour renvoyer de l'université Monsieur Guggenheim, etc., à propos d'Aristote. Mais c'est parce que derrière ce profil, si on dit que le monde arabo-musulman n'a pas eu d'impact sur l'Europe, eh bien, notre honneur est en jeu. C'est tout ce qui nous reste. C'est un petit peu, l'idée était de dire, c'est un livre islamophobe. C'est un mot très à la mode aujourd'hui, en Europe. Et, en fait, ce qui est sûr, c'est que nous vivons une situation, ceci c'est l'analyse du synode que je vous transmets. Nous vivons une situation déplorable dans tout le Moyen-Orient. Il n'y a pas un pays démocratique, on peut citer plus un petit peu la Jordanie, mais partout on a ou des dictatures ou des autrefois c'était les rois qui se transmettaient de père en fils, aujourd'hui ce sont nos présidents dont les rejetons héritent, c'est des républiques comment on appelait ça,
des dynasties.
C'est un nouveau mode qu'on a lancé. Au moins, on a quelque chose, les Arabes, dans le monde. Mais évidemment, ça ne fait que renforcer la rancœur de tous ceux qui aspirent à plus de justice. Et parmi eux, les musulmans qui luttent pour cela. Finalement, la seule lutte, on a été envahi par l'argent venant d'Arabie Saoudite, laquelle est liée à une idéologie radicale, l'islam wahhabite, qui anathématise toute forme d'islam qui n'est pas wahhabite, c'est-à-dire de très stricte observance. Les chiites, pour eux, sont presque autant honnis que les athées. Les chrétiens, les chiites, les autres sectes, même les groupes sunnites qui ne sont pas de leur tendance, sont considérés comme des hérétiques ou des gens à éliminer. Avec ce pouvoir d'un côté et cette idéologie de l'autre, ce que l'on voit dans le monde entier, mais en particulier dans le monde arabe, c'est la radicalisation de l'islam pour lutter pour un islam plus sain, plus démocratique, plus juste, plus universel, pour convertir le monde. C'est ça que nous vivons. Là-dedans, les chrétiens ne sont pas les premiers visés. On est un élément, un petit obstacle au passage qu'on va essayer d'éliminer. On ne peut pas l'éliminer, on va le maintenir sans effet. On vit cela à tous les niveaux, cela entraîne le départ. Face à cela, que faire? Encore une fois, le synode n'a absolument pas dit « Ayez pitié de nous, venez ». Le synode dit « Il n'y a qu'une solution ». Comme on a dit par rapport à Israël et la Palestine, la seule solution c'est la paix. Ici on dit pareil, la seule solution c'est qu'ensemble nous affrontions le problème de notre région. Musulmans et chrétiens, nous voulons défendre la démocratie, la liberté, l'égalité entre tous. On n'a pas un projet chrétien à part. Nous avons un projet pour la région du Moyen-Orient, pour le monde arabo-musulman, un projet fondé sur l'idéal islamique et chrétien dans ce qu'il a de plus pur. C'est cela qui a été répété, si vous lisez le discours, le message final, comme aussi tout l'instrumentum laboris et les autres textes, ils ne font, le mot-clé, je crois, c'est ensemble. Ensemble, musulmans et chrétiens, nous voulons construire une cité digne de l'homme. Pour cela, nous chrétiens, nous ne mendions pas. Nous ne revendiquons rien. Nous disons, nous sommes citoyens, point final. On exige qu'il n'y ait pas des catégories de citoyens. Que le citoyen musulman ou athée ne soit pas différencié. Et ceci, ce n'est même pas un droit pour défendre les chrétiens, mais simplement les droits de l'homme. Donc, citoyenneté, égalité entre tous, c'est répété plusieurs fois avec précision. Entre tous signifie entre hommes et femmes, ce qui est déjà suppose un long cheminement. Entre musulmans, entre croyants et non-croyants. Musulmans, chrétiens, juifs, athées. Entre riches et pauvres. Entre, etc. Toutes les catégories, on dit, il faut entrer dans ce système. Quand on parle des droits de l'homme, c'est souvent mal reçu du côté musulman, parce que c'est vu, oui, mais les droits de l'homme, c'est une affaire occidentale. Et vous savez qu'il y a eu deux documents, au moins officiels, un de la Ligue arabe et l'autre de la Ligue islamique, qui s'intitule « Les droits de l'homme selon l'islam ». C'est-à-dire qu'on dit « Ce qu'on appelle la charte universelle des droits de l'homme n'est qu'une charte occidentale ». Et ceci est absolument inacceptable, ou elle est universelle, ou elle n'est pas l'homme. Mais pour pallier cette difficulté, on parle plutôt de rétablir la dignité humaine. Parce que ça, c'est un concept qui est plus dans l'islam, la dignité humaine. De même que on a parlé, mais avec des guillemets, de laïcité positive, mais le terme va être compris chez nous comme signifiant athéisme, immoralité. Ce que on ne connaît pas la laïcité dans nos pays. Le seul modèle qu'on connaisse est celui de l'Occident. Et en Occident, entre autres, celui de la France. Or, l'image de l'Occident, qui était jusqu'au XIXe siècle, une image est jusqu'au début, jusqu'à la Première Guerre mondiale, une image positive. C'était l'Europe, c'était les Lumières, c'était la liberté, c'était aussi les avantages de la civilisation. Aujourd'hui, l'Europe est présentée, même si on sait qu'il y a tout cela, est présentée comme étant l'immoralité, les musulmans vous répéteront, oui, en Europe, vous nous reprochez la polygamie, mais chez vous, tout le monde couche avec tout le monde, les hommes ont tous une maîtresse. C'est l'image qu'on a, c'est l'immoralité, c'est le mariage homosexuel, c'est tout ça. Donc, face à cela, la seule solution, c'est l'islam, disent-ils, qui rétablira une société. Nous disons, nous sommes pour une société de croyants, sans faire de distinction entre les croyants, et même sans distinction entre croyants et non-croyants, mais qui a un idéal. Et cet idéal, nous le proposons. Qu'en sera-t-il du synode? À cela, un point essentiel, c'est la question de la liberté de conscience. Quand on parle avec des musulmans, ils nous disent toujours, l'islam c'est la religion de la tolérance, on nous le répète à satiété. En Europe, on a beau jeu de dire, Islam veut dire salam, salam c'est la paix, etc. C'est du baratin, mais qui passe très bien dans les milieux d'ignorants de l'arabe, de la langue arabe. Ce que nous demandons, ce n'est pas la tolérance. Moi, je leur dis, vous avez raison, vous nous tolérez. Je ne tiens pas à être toléré. Nous demandons le droit, par amour, d'annoncer notre foi, de proclamer notre foi en Jésus-Christ et dans l'Évangile. C'est un droit. De même que je réclame pour vous le droit de m'inviter à l'islam. Si nous sommes vraiment croyants, chacun est convaincu que sa foi est ce qu'il a de plus beau, de meilleur dans sa vie. Et si j'estime l'autre, je veux lui communiquer ce que j'ai de meilleur. Et c'est un droit pour moi, un devoir, un droit pour lui, un devoir pour moi, de transmettre cela. Ça n'a rien à voir avec le prosélytisme. On a insisté là-dessus. On en est très loin, on le sait, mais on doit lutter pour ça. Le projet, finalement, c'est une société plus humaine, plus ouverte aux droits de l'homme, et nous avons à travailler sur nous-mêmes, comme chrétiens. Annie l'a dit tout à l'heure, refaire la communauté entre catholiques, entre chrétiens, mais aussi entre tous, avec tous. Et on a soulevé aussi un point très important. On oublie qu'en Arabie, il y a plus de 2 millions de catholiques qui n'ont même pas le droit de se réunir, fût-ce en chambre, dans un appartement privé. Plus de 2 millions de catholiques sont là. D'autre part, on a partout des millions d'émigrés venant d'Asie et un peu d'Afrique qui sont traités comme du bétail. Et nous sommes totalement injustes, y compris les chrétiens, dans notre manière de traiter. Là aussi, on a fait une espèce d'autocritique sérieuse. Enfin, je conclue, notre témoignage, c'est d'abord notre communion. Il s'agit, ce qui manque aujourd'hui, tant en Orient que je crois en Europe, c'est des chrétiens tellement convaincus, donnant le témoignage de l'amour universel, du service universel et de la foi que c'est l'Évangile qui me libère et me donne ma force, que les autres en soient attirés. En France, il y a des millions, entre 4 et 5 millions de musulmans. C'est pour la première fois dans leur histoire, ils peuvent vivre dans un pays non musulman, un pays de tradition chrétienne, même s'il n'est plus chrétien, où ils peuvent trouver une église à chaque rue, où ils peuvent acquérir un évangile sans être mis en prison. Peut-être que ce qui manque, c'est de rencontrer des chrétiens. Et il semble même qu'il y ait des chrétiens qui disent, il ne faut surtout pas leur annoncer l'évangile, ils sont très bien comme ils sont. Il me semble que nous, en Orient, comme vous, en Europe, avons perdu un peu du sel de la terre, de ce levain qui fait lever toute la pâte. Et la pâte est en train de tomber. Et c'est cela l'enjeu du synode qui est le plus grave. Ce n'est pas que nous disparissions du Proche-Orient, parce qu'on vivra n'importe où ailleurs aussi bien. Mais c'est que le levain de l'Évangile disparaisse de la pâte musulmane comme de la pâte européenne. Merci.
Merci beaucoup, Samir, de ce panorama, de ton propos, d'abord de ce coups de projecteur, je dirais, sur différents pays de la région qui ont mis en lumière ce phénomène qui semble un peu inexorable du départ. Et devant une mort lente annoncée, eh bien, arrive la réflexion du synode qui essaye de regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'on peut faire devant cette réalité qui semble un peu inexorable? Parmi les choses qui ont été, je crois, dites au synode et que tu as mis en lumière, c'est de prendre peut-être la mesure de cette réalité, qu'il n'y a pas de solution, il n'y aura de solution que dans la paix bien sûr entre Israël et la Palestine, mais aussi plus largement dans la région, et que cette paix ne peut être basée que sur la justice. Prendre en compte aussi le sentiment d'humiliation que connaît l'islam aujourd'hui, prendre en compte la situation déplorable de la région du point de vue de la démocratie, et à partir de là, eh bien, que faire? Tu insistes en disant que le synode n'a pas dit « ayez pitié de nous, pauvres petits chrétiens d'Orient », mais bien il s'agit de travailler ensemble. Il n'y aura pas d'avenir ensemble, il n'y aura pas d'avenir sans travailler ensemble, chrétiens et musulmans, en matière de citoyenneté, en matière d'égalité, en matière de droits de l'homme, en matière, et tu as insisté beaucoup là-dessus, de liberté de conscience. Alors, ce travail-là, il est d'abord à faire au sein de la communauté chrétienne. Les chrétiens ont à travailler eux-mêmes, ensemble, là-dessus. Mais notre témoignage, c'est d'abord celui de notre communion, c'est le témoignage de notre foi, et que c'est vraiment là-dessus que tu insistes en disant que l'enjeu central, eh bien, c'est que le levain dans la pâte doit rester dans cette région pour continuer à porter son fruit. Alors merci, parce que je crois que ça ouvre bien à la diversité et à la complexité aussi de la question des chrétiens d'Orient. Nous allons pouvoir avoir un long temps maintenant, près de trois quarts d'heure, pour échanger entre nous, pour poser des questions, pour dire aussi quelques convictions. Un micro va se balader. Voilà, il sera tenu par Fadi Georges, scolastique égyptien. Ça me permet de dire qu'il y a une forte présence de la Compagnie de Jésus au Moyen-Orient, notamment en Égypte, en Syrie, au Liban, en Turquie également, un peu en Jordanie. Voilà. Donc nous allons peut-être commencer par une première question ici. On va en prendre quelques-unes avant de redonner la parole à nos intervenants. David.
Merci, bonsoir. Donc j'aurais trois petites questions à l'attention de nos deux invités.
Oui. Alors, moi la première déjà.
Alors là, ça va être trois petites questions. Donc la première, c'est que vous avez parlé, mon père, de deux types de mécanismes qui jouent en fait donc au Proche-Orient vis-à-vis des chrétiens. Le premier que vous avez cité, c'était le rôle, disons, du conflit israélo-palestinien. Donc après la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième, je l'ai pas bien situé, si c'était uniquement en fait le sentiment d'humiliation de l'islam ou s'il y avait autre chose, puisque vous avez noté aussi qu'il y avait une diminution du nombre de chrétiens au Proche-Orient depuis le début du XXe siècle, donc il y a au moins un mécanisme qui préexiste à la Deuxième Guerre mondiale, donc quel est-il? Deuxième question, qu'en est-il des chrétiens en Israël? Puisque là, il s'agit plus de problème d'être face à l'islam, mais d'être face au judaïsme. Pourquoi est-ce que les chrétiens en Israël eux-mêmes voudraient partir, alors qu'a priori, enfin la question n'est pas la même. Et troisième question, est-ce que vous observez en ce moment un rapprochement entre catholiques et orientaux, bah, orthodoxes, sur le théâtre du Proche-Orient, alors que finalement les questions se posent différemment entre Rome et Moscou, par exemple? Il s'agit aussi d'une question d'œcuménisme. Est-ce qu'il peut se vivre de manière particulière sur le terrain du Proche-Orient?
Merci Jean-David. On va, même si on a trois questions en une, on va quand même en reprendre d'autres, parce qu'il y a sûrement d'autres interventions qui se préparent. Voilà, au milieu, tu grimpes, tu montes, voilà, sur la droite, très bien.
Vous qui avez assisté au synode, ne pensez-vous pas, comme ça a pu être écrit, qu'il y a un écart assez important entre les conclusions du synode et les lineamenta? Ça a été dit, c'est-à-dire que il y avait une certaine vigueur dans ce qui avait pu être dit au niveau des lineamenta. Il semblerait qu'on ait un peu arrondi les angles par rapport à cette conclusion du synode. La deuxième petite question rapide, c'est le massacre de Notre-Dame du Perpétuel Secours vous apparaît-il comme une conséquence indirecte du synode ou comme un écho ou une réponse? Et le dernier point, ce serait effectivement, que pensez-vous du refus d'évangélisation de certains chrétiens occidentaux ou de leur accueil quelque peu froid aux gens qui viennent du monde de l'islam avec des réponses du genre « c'est très bien comme ça, restez ce que vous êtes ».
Voilà, alors comme il y a à chaque fois trois questions en une, on va déjà donner la réponse, ça fait déjà six questions, et puis on reprendra ensuite une série d'autres questions. Père Samir, on commence par vous, et puis ensuite vous pourrez compléter Annie.
D'abord pour Jean-David, ce qui n'était pas clair, c'est la radicalisation de l'islam. Et ce phénomène apparaît de plus en plus, mais il a pris une forme organisée, systématique et très large à partir de 73-14. Après toutes sortes d'échecs. Et cela s'est fait, nous le voyons le but de cette radicalisation est de dire, il s'agit de faire un islam salafiste à l'image de de la première communauté islamique de Médine. Donc c'est l'idéal n'est pas en avant, c'est le retour à quelque chose, et c'est appliqué très très à la lettre. C'est une manière de s'habiller, de manger, de faire qui nous contredistingue des autres. J'essaie d'être très bref. Les chrétiens en Israël, on en a parlé, et comment à tous les niveaux, à toutes les étapes du synode. Puisqu'il y avait le patriarche de Jérusalem et une importante délégation là de tant d'évêques que de laïcs, il y a un dialogue avec les juifs qui se fait, qui est pas très facile, comme avec les musulmans, il n'est pas facile. Il y a une ambiguïté. Les chrétiens d'Israël en général ne veulent pas quitter. Ils n'émigrent pas. Ils sont certainement en situation bien supérieure, bien meilleure que celle des chrétiens en Palestine ou en territoire occupé. Enfin, ce que c'est. Là, il y a d'autres questions qui se posent à eux, la question des questions politiques, les questions aussi de des pèlerins, les questions écuméniques, la situation là-bas est un mauvais, un contre-témoignage de la part des chrétiens au monde entier. En liaison avec ça, l'écuménisme entre catholiques et orthodoxes, au niveau local, du côté catholique, je crois pouvoir dire sans fausser l'image, l'effort est très sérieux et l'ouverture est très grande. Du côté orthodoxe, les résistances viennent des hiérarchies. En Égypte, disons les choses clairement, depuis le règne de Chenouda III, qui dure, puis je ne sais plus de 30 ans certainement, tout est bloqué. Il a décidé de rebaptiser toute personne à l'occasion des mariages qui épouse un orthodoxe, ainsi de suite. Enfin, il y a énormément de difficultés. Mais nous avons appliqué du côté catholique, par exemple, l'accord de 73 entre Chenouda et le pape Paul VI, qui prévoit que la fête de Noël et de Pâques soit unifiée, Noël avec l'Occident, le 25, c'est-à-dire avec le calendrier grégorien, tout simplement. Et, et Pâques avec, en suivant la tradition orthodoxe, nous l'appliquons, on fête avec eux Pâques, ils ne fêtent pas Noël, ils le fêtent le 7 janvier, toujours. C'est dire, c'est symptomatique. Bon. Au Liban, les fidèles, en tout cas, sont beaucoup plus ouverts que les hiérarchies. Ce sont nos évêques, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, quand il y a un blocage, ça vient des évêques. Ça ne vient pas des fidèles. Les mariages, les messes, je passe à l'autre série. Les lineamenta, je ne sais pas qu'en dire. Je crois qu'elles ont été bien faites.
Les travaux préparatoires.
Les travaux préparatoires. L'instrumentum laboris, on me dit que ça a été bien fait. Mais en tout cas, ça a été appliqué. On a repris la même structure ensuite dans les discours finaux du patriarche copte catholique. Je crois que là, le problème du synode, c'est maintenant. C'est-à-dire, les choses ont été assez correctement pensées et proposées. La vision est claire, positive, constructive, surtout constructive. Maintenant, qu'en fera-t-on? Ça dépend de chacun de nous, des évêques, des fidèles, de vous, de moi, parce que si le lien Europe Moyen-Orient est important pour nous. Et si on veut réaliser des projets, bon, s'il peut y avoir un support humain, spirituel, matériel des autres chrétiens du monde, c'est certainement le projet pourra réussir mieux. Le massacre d'avant-hier, je crois que le but, bon, il y a deux choses que je soulignerai. Le but, c'est de pousser les chrétiens à quitter les grandes villes. Depuis le début, on veut les chasser de Bagdad, de Mossoul. Et, bon, Bagdad, c'est presque fait. Ils émigrent vers le nord dans la région kurde, qui est leur région un peu, mais où ils sont demandés par les Kurdes, pour des motifs politiques, pas par charité chrétienne ou charité kurde. Mais c'est-à-dire que les chrétiens savent très bien que le jour où les Kurdes n'auront plus besoin d'eux, ben, il vaudrait mieux qu'ils s'en aillent s'ils ne veulent pas être réégorgés comme ça s'est passé en 1918. Il y a eu les massacres, étaient de la part des Kurdes contre les chrétiens. Alors le plus important, c'est la dernière question. Le refus d'évangélisation que l'on constate chez certains prêtres, évêques, fidèles en Europe. Ça, c'est pour moi un mystère vraiment incompréhensible. Comment peut-on se dire chrétien et refuser à des gens qui demandent de l'être, dire non, ça va très bien comme tu es. Tu sais, d'ailleurs, le concile a dit que tout le monde peut être sauvé là où il est, etc. J'ai été traité de préconciliaire parce que simplement au Maroc, un homme mûr de 34 ans, un professeur de langue arabe qui ne sait pas un mot de français, ou pratiquement pas, qui est venu me voir en disant je lis l'évangile, etc. Au bout d'un quart d'heure, je lui dis, mais je suis étonné de votre connaissance de l'évangile et du christianisme. Il m'a dit, mais monsieur, ça fait 14 ans que je demande le baptême. Alors j'ai dit, il déraille un peu, il sait pas ce que c'est que le baptême. J'ai dit, on va se retrouver. Et j'appelle l'évêque du lieu, enfin, l'évêque, et j'ai dit, j'aimerais bien vous voir. Il me dit, venez dîner. Et je raconte ma mésaventure, étonné, au dîner. Silence, ils étaient trois, l'évêque, le vicaire général et l'économe qui tient les caisses des écoles. Je répète, et à ce moment, le vicaire général de l'époque me dit, mais bien sûr, tu arrives d'Égypte et tu veux nous enseigner ce qu'on doit faire, bien sûr que, etc. Et alors, j'ai réagi un peu sec, en disant, enfin, le baptême, l'Esprit Saint, tu le donnes, c'est toi qui décides qui doit être baptisé et qui non. Tu dois avertir des risques que court chacun. Mais, or, j'ai su après, deux jours après, qu'on avait vraiment interdit à tous les prêtres d'avoir, enfin, des contacts, tant soit peu profonds, avec les gens. Et trois jours plus tard, j'étais dans une paroisse, du sud, à Oujda, et le curé d'Oujda me dit, après l'office du Vendredi Saint, bon, vous fermez les portes, et puis je chauffe la soupe. Bon. Au moment de fermer les portes, je trouve trois jeunes Marocains qui étaient dedans. Alors je dis bonsoir, etc. Ils disent, qu'est-ce que c'est? J'explique, et je leur dis que c'est le Vendredi Saint aujourd'hui, parce qu'ils me disaient, pourquoi c'est couvert? Et je leur dis, le Christ est mort par amour pour tout le monde aujourd'hui, malgré ce que le Coran en dit, etc. Et de la cuisine, le curé appelait, criait, « Alors, Père Samir, vous venez ?» Et je ne répondais pas. Il arrive, il me dit, « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ?» Je lui ai dit, « Moi, je ne peux pas chasser un autre qui entre. » Enfin, ils étaient là, j'y peux rien. Mais si vous les chassez, vous le faites vous. Moi, je ne peux pas renvoyer un autre. Et puis après, on a eu une discussion. Il ne faut absolument pas... Bon. On vit en ghetto. Bon. Et quel est le sens enfin, ça a un sens, cette présence. Mais pas quand on s'auto-censure. Or, ça veut dire que je ne crois pas que l'Évangile, c'est la merveille des merveilles. Bon, alors... fermons nos églises et allons trouver un autre job. Mais c'est quand même absurde. Or, je constate que cette idéologie est répandue. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas chrétien.
Alors, je vais compléter un petit peu. Concernant la question, une question qui m'a frappée, c'est celle qui a rapport avec la situation des chrétiens en Israël. Il faut savoir que les citoyens chrétiens d'Israël vivent en fait un problème d'identité, parce que Israël les renvoie sans cesse à leur arabité. Vous voyez, donc ils sont citoyens d'Israël, mais en même temps considérés d'une manière un peu hostile, je pourrais dire, on se méfie d'eux. C'est vrai que les chrétiens comme les musulmans arabes citoyens d'Israël participent aux élections, leurs institutions reçoivent des subventions de l'État, ils vivent dans un pays ouvert sur l'Occident, ils échappent à la dhimmitude, donc le statut d'infériorité imposé par les pouvoirs musulmans à leurs citoyens chrétiens, dans beaucoup de cas encore aujourd'hui. Et donc de ce point de vue, ils sont mieux lotis que dans les pays musulmans. Mais n'empêche qu'il y a ce problème. Qui sommes-nous exactement? D'autant plus qu'on les prive de faire le service militaire. Alors, si on ne fait pas le service militaire, quelle allégeance peut-on donner à la patrie en cas de d'agression extérieure, vous voyez? Donc, il y a ce problème qui est ressenti cruellement par les chrétiens d'Israël. Et cette question-là s'aggrave de plus en plus au fur et à mesure que les autorités israéliennes insistent pour que leur pays soit reconnu comme un État juif. Autrement dit, donc, on est pleinement citoyen que si on est de confession juive, vous voyez. Alors, il y a quand même ce malaise qu'il faut souligner. Je voudrais ajouter autre chose aussi. C'est que la création d'Israël au Proche-Orient a faussé le regard que les catholiques et les chrétiens en général portent sur le judaïsme en tant qu'héritier de l'Ancien Testament, si vous voulez. Le Concile Vatican II a engagé une nouvelle orientation dans les rapports de l'Église catholique avec les Juifs, mais les chrétiens d'Orient, les catholiques, ont du mal à suivre ces orientations, parce que pour eux, les Juifs, c'est Israël, si vous voulez. D'ailleurs, c'est le même mot en arabe qui veut dire Juif et Israélien, Yehoud. Hein. Donc, il y a cette confusion. Et en plus, ils se disent que s'ils engagent un dialogue trop poussé, trop profond avec les Juifs, comme les y engage donc l'Église catholique, ils risquent de subir des représailles de la part de leurs compatriotes musulmans. Là, je parle de tous les pays de la région. les musulmans pourraient leur dire mais vous êtes donc les complices de ce pays qui nous fait tant de tort et qui est soutenu par l'Occident et voilà. Et d'ailleurs, si on remonte au Concile Vatican II, c'est grâce au père conciliaire du Proche-Orient que la déclaration Nostra Aetate, qui au départ était limitée aux relations entre l'Église catholique et le judaïsme, cette déclaration donc s'est élargie à toutes les religions, à commencer par l'islam. Voilà, je voulais faire le point là-dessus. Alors concernant les conclusions du synode, moi je ne trouve pas qu'elles soient édulcorées. On a, vous savez, je peux en témoigner, on a énormément travaillé, tous les aspects, tous les problèmes ont été pris à bras le corps. On ne l'a pas encore dit ce soir, mais je voudrais insister sur une dimension très très importante de ce synode, c'est celle de l'identité chrétienne. On a beaucoup réfléchi au fait, enfin à la question, qu'est-ce que c'est être chrétien aujourd'hui au Proche-Orient, dans ce monde si troublé? Qu'est-ce que doit être un chrétien? Quelle doit être sa vocation et sa mission? Et ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'il y a un petit reste. Le déclin numérique saute aux yeux. Mais alors, on essaie de le compenser, et c'est très positif, par une meilleure qualité de l'être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas faire de son baptême une carte d'identité. Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus profond à creuser. Et là, donc, on y a bien réfléchi, d'où l'importance donnée par les pères synodaux et par les documents qui ont conclu ce synode à la formation des catholiques au Proche-Orient. Il y a parfois, c'est vrai, un déficit dans ce domaine. Et donc, je pense que beaucoup d'initiatives seront prises à cet égard-là. Les chrétiens ont un rôle tout à fait particulier à jouer au Proche-Orient. Et d'ailleurs, j'ai été frappée par la conférence que nous a donnée pendant le synode le rabbin David Rosen, le seul juif que nous ayons entendu, un discours d'une demi-heure. Il a dit à un moment donné que le métier, a-t-il dit, des chrétiens, c'est de favoriser la réconciliation grâce au pardon et aux valeurs dont ils sont porteurs à cause de l'Évangile. Vous voyez, un juif engagé comme lui qui a reconnu cette vocation particulière des chrétiens du Proche-Orient. Et j'espère beaucoup qu'après le synode, les évêques rentrés chez eux vont aider leurs fidèles à approfondir le sens de leur identité chrétienne. Je pense que c'est plus important pour éviter l'accroissement de l'immigration, si vous voulez, que de leur permettre des conditions de vie économiquement favorables. Je ne dis pas que ce n'est pas important, bien entendu. Il faut aider les familles sur place à vivre, ou sinon à survivre. Mais n'empêche que la conscience d'une identité spécifique peut permettre à beaucoup de chrétiens qui seraient tentés par le modèle occidental, par le confort ou les facilités des pays d'émigration, donc ça peut les encourager à rester, à prendre conscience de cette belle vocation qui est la leur. Après tout, c'est une vocation qui est difficile, c'est vrai. Le message final parle du partage de la croix qui est demandée aux chrétiens. Ça peut aller jusqu'au martyr, mais c'est quand même une vocation extraordinairement belle. Voilà. Pour ce qui est, de l'évangélisation, le père Samir en a beaucoup parlé, très bien. Je voudrais ajouter une référence, si le sujet vous intéresse. C'est l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio, paru en 1990. Il a bien dit, le pape, que c'était un droit pour tous les non-chrétiens de connaître l'Évangile. Et nous, on a inversé la position. On croit que c'est imposer notre religion en annonçant l'Évangile. Mais pas du tout. Il y a, bien sûr, l'art et la manière d'annoncer l'Évangile. Mais c'est un droit pour tous. Et Jean-Paul II insistait là-dessus en disant que si nous n'évangélisons plus, c'est un signe de très mauvaise santé de nos sociétés chrétiennes européennes. D'où, d'ailleurs, l'initiative de Benoît XVI de créer un dicastère pour la nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation qui s'applique aussi aux chrétiens du Proche-Orient, ça a été dit dans une des propositions. Alors, bien sûr, adaptée au contexte qui est le leur.
Merci Annie Laurent. Nous reprenons... une série de questions. Voilà, devant... Voilà, Kenj.
Oui, merci. Durant les années 90, il y avait eu un synode pour le Liban. Alors,
je voudrais savoir, durant les travaux du synode pour les chrétiens d'Orient, est-ce qu'il y a eu d'une certaine façon une mise en parallèle, ou bien quant au contenu, ou bien quant aux leçons à tirer pour l'application, l'application qui a été donnée au synode pour le Liban. Et j'ai une observation. Je crois que en ce qui concerne l'évangélisation et la réponse donnée un peu au, disons, à cette question d'évangéliser les musulmans, il faut faire une différence entre l'évangélisation des membres de la communauté musulmane ici en Europe et, par exemple, le cas que vous avez auquel vous avez eu affaire au Maroc, parce que j'ai vu ça dans d'autres pays et c'est triste à dire. J'ai vu ça en Russie, par exemple, où il s'agit cette fois entre chrétiens, entre orthodoxes et catholiques. C'est que l'Église catholique vit toujours dans une peur d'être provoquée en quelque sorte, d'être amenée d'avoir affaire à des gens qui sont envoyés, d'être sous observation, et on l'attend au tournant de faire un geste pour que justement on l'accuse de prosélytisme et qu'on lui fasse ses ennuis. Et donc, c'est ce qui la pousse parfois à avoir un peu des positions un peu prudentes. Donc, voilà. Je ne sais pas quel est un peu votre avis sur ça. Merci.
Merci, Kenj. Je crois qu'il y avait une autre question par ici. Voilà. Et puis après, on terminera par... Là-haut. Oui, oui. Ah bah, Fadi, tu me regardes, moi. Allez-y. Allez-y, vous avez le micro, allez-y.
Quelques questions. D'abord, quelques observations aussi sur ce qui n'a pas été dit. Je pense que ce synode n'est pas un synode des églises d'Orient, mais surtout des églises d'Orient arabes. Et que les minorités ont été un peu abordées, mais très peu. Je suis personnellement au service de l'église chaldéenne catholique de Téhéran depuis plus de 40 ans et je suis frappé comme depuis le synode pour le Liban, comme le premier congrès des patriarches et évêques catholiques au Liban, comme le synode d'Asie, les petites minorités dans l'église sont plus ou moins négligées alors qu'on fait des grandes promesses pour les aider. Des promesses qui n'ont aucun résultat jusqu'à présent. Je suis responsable du catéchuménat d'adultes. Et là, je me permets de rappeler que si j'étais au Maroc en 1955 et l'évêque à l'époque interdisait tout baptême de non-chrétiens. Mais aujourd'hui, dans certaines églises d'Orient, la même perspective est très clairement définie. Et j'ai été condamné plusieurs fois par des évêques orientaux pour accueillir des musulmans qui cherchaient vers le christianisme, comme il y en a beaucoup en Iran, parce que je les introduisais dans une ethnie chrétienne qui était beaucoup plus ethnique que chrétienne et qui sentait venir ces convertis comme du sang impur. J'ai entendu dire ceci par un évêque responsable, haut responsable du dialogue islamo-chrétien: ne baptisez pas, le baptême c'est contre le dialogue, le baptême tue le dialogue, c'est exactement ce qu'il a dit. On m'a dit aussi ceci: ne baptisez pas tant que vous n'êtes pas sûr que la personne que vous baptisez ne sera pas persécutée, ce qui est stupide et contre l'évangile. Et ceci c'est au sein des églises d'Orient, c'est pas en Occident. Donc, il me semble qu'il y aurait à corriger et qu'il y aurait des choses à renouveler au sein des églises d'Orient qui n'ont pas été, à mon avis, abordées, par exemple. On parle de communion.
Voilà, vous approchez de la fin de... Vous allez vers votre question.
Oui, j'ai une autre question.
J'en ai deux autres. Mais allez-y, pour ne pas monopoliser la parole. Allez-y. Allez-y. Vous voulez, allez-y.
Vous avez parlé de communion. Or, depuis le premier concile de Nicée jusqu'au concile Vatican II, il est demandé que la communion dans une église locale soit assurée par un évêque. Et il y en a beaucoup trop, comme vous savez. Quand la question a été posée au patriarche en avril dernier à Rome, les patriarches ont répondu: « Oh, nous tenons beaucoup trop à nos sièges pour aborder cette question. » Voilà encore une question qui concerne le renouveau des églises internes à l'intérieur des églises catholiques d'Orient, qui n'a pas été abordée à ma connaissance du moins. Quant au témoignage, le Concile demande que le catéchuménat d'adultes soit repensé et réintroduit dans nos églises. Je ne sais pas, peut-être un petit peu au Liban, mais pas beaucoup ailleurs dans les églises d'Orient. Je pense autrement dit qu'il y a un renouveau, un aggiornamento des églises d'Orient qui n'a pas été suffisamment abordé.
Merci beaucoup, Père Humblot. On va terminer cette série-là, mais je ne vous oublie pas. Voilà, allez-y.
J'ai une petite question.
Parlez plus fort, près
oui,
du micro.
Comment se passe le quotidien des chrétiens d'Orient dans leur insertion économique, sociale? Voilà, est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce qu'il y a des mélanges entre confessions sur le terrain? Et est-ce qu'ils font l'objet? Est-ce qu'il y a une solidarité des musulmans qui se reconnaissent pas dans les islamistes qui provoquent les attentats? Est-ce qu'il y a de la solidarité entre confessions sur le terrain?
Merci. On s'arrête là pour l'instant, mais je vous promets de vous faire passer en priorité dans la série suivante. Voilà.
Bouge pas du tout. Mon père, je crois que nous nous sommes rencontrés chez les Clarisses au Liban il y a quelques années. Enfin bon, alors c'est pour le père. Vous avez parlé des réserves que les évêques et les ecclésiastiques en Orient ont vis-à-vis des
condamnations.
Oui, d'accord, des condamnations. C'est vrai, je suis d'accord, je pense que le père Samir aussi, que c'est un sujet qui n'a pas été suffisamment, ou même pas du tout, abordé lors du synode. Alors, je rejoindrai volontiers dans cette, pour comprendre cette attitude que je déplore, moi, bien sûr, l'analyse que fait Mgr Jean Sleiman, l'archevêque de Bagdad des Latins, qui parle de la dimitude intériorisée. Je pense que le poids de l'histoire explique ce comportement qui nous surprend ou nous choque. Les pouvoirs musulmans pendant des siècles qui ont interdit donc toute évangélisation et qui ont mis les chrétiens dans une situation d'infériorité sur le plan, d'un point de vue juridique et politique et social, ont suscité chez les chrétiens cette intériorisation de la dimitude qui fait qu'ils n'osent pas, ils ont intériorisé une situation d'infériorité. Il faut en sortir, bien entendu. Je veux juste évoquer la conversation que j'ai eue en marge du synode avec le nouveau patriarche de l'église syrienne catholique, cette église qui a été visée donc à Bagdad par l'attentat, qui m'a dit « Maintenant, nous devons reconsidérer notre manière de dialoguer avec les musulmans. » Ça rejoint la mission. Nous avons trop fait de colloques, spectacles entre spécialistes, chrétiens, musulmans. On dit trop de choses agréables à l'autre pour lui faire plaisir, pour ne pas risquer de toucher les problèmes qui fâchent. Mais moi, je préfère dialoguer avec les musulmans d'homme à homme et de leur dire pourquoi nous souffrons à cause d'eux et de leur demander d'essayer de changer leur manière d'être avec les autres. Et en fait, ça décomplexe. Ils pensent que comme ça, les chrétiens d'Orient pourront retrouver une liberté, y compris dans l'annonce de l'Évangile. Voilà, je vous livre simplement ce témoignage.
Alors, je prends dans l'ordre. Le synode pour le Liban a été utilisé et aussi largement qu'on pouvait. Il faut quand même se dire, le Liban est essentiel dans le Moyen-Orient, mais c'est qu'un pays en situation spéciale. Et comme l'a dit Pierre, la responsabilité était pour tout le Moyen-Orient. Alors, je reviendrai là-dessus. Justement, je reprends un des points soulevés maintenant par Pierre. La question que c'était trop arabe, bien sûr, il y a la masse. Mais on a toujours, par exemple, dans les documents que j'ai lus plus attentivement, enfin les préparatoires, on a toujours mentionné arabe, syriaque, turc, iranien, etc. Mais il faut dire aussi, de l'Iran, il y avait un évêque, Monseigneur Ramzi, de Turquie, ils étaient trois peut-être, oui, de Turquie, ils étaient Franceschini. Enfin, il y avait très peu. Ce qui reste vrai, je reviendrai à l'autre question, c'est que nos églises sont cloisonnées et sont ethniques. Et ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est la honte de nos églises. C'est l'aspect inverse. Je prends un exemple. J'ai été amené à baptiser quelqu'un au Liban. Bon, parce qu'il est venu à moi, etc. On a fait un cheminement de 2 ans. Mais le baptiser, quoi? Il ne correspond à aucune catégorie. Il n'est ni maronite, ni melkite, ni. Donc, lui-même a dit, on va le faire chez les latins. C'est là que, dans son expérience où il venait, je l'invitais à la messe, il se trouvait, c'était le plus ouvert. Il était accueilli. C'est une des difficultés. C'est que nos églises sont ethniques au départ. Et ça reste, sans vouloir trop préciser pour ne pas que ça devienne personnel, je sais que, par exemple, telle église, c'est plus qu'ethnique, c'est tribal. C'est-à-dire qu'on va nommer l'évêque de tel village parce qu'il appartient à notre. Et je me souviens d'une rencontre avec le patriarche syrien orthodoxe précédent, avant Zakaïwas, à Damas, qui attaquait dans chaque numéro de sa revue, il avait un article contre le dictionnaire fait émis par l'imprimerie catholique, donc les jésuites, donc le Vatican, donc l'Église catholique. Parce que là, il y avait des articles de 4-5 lignes qui n'étaient pas correctement faits. Et il a fait une série de 10 articles au point que ses propres fidèles lui ont dit « Béatitude, ça suffit, ça nous ridiculise. » Bon, je passais à Damas et je vais toujours rencontrer les patriarches. Et je savais de ce qu'il faisait, j'ai pris avec moi le dictionnaire. Et arrivé là, je lui dis, il me parle de l'affaire. Et je lui dis, écoutez, prenez la première page du dictionnaire et voyez les noms. Oui, il y a des jésuites, c'est édité. J'étais le seul à avoir une petite rubrique. Mais ce que vous critiquez, c'est-à-dire tous les articles concernant les syriaques et les orthodoxes, sont faits par un tel. Il regarde, il me dit, ah, maintenant je comprends. Parce que c'est quelqu'un de son village, mais de la partie catholique opposée aux orthodoxes. Et le problème était dégonflé. Nous vivons ça. C'est un des aspects négatifs du confessionnalisme. Et on le sait. On l'a dit, mais très fort. Et on veut essayer de dépasser cela. La question de plusieurs évêques sur le même territoire, sur le même diocèse. Ça a été soulevé, dans le groupe où j'étais, et ça a été soulevé souvent. On ne s'est pas trouvé une solution. C'est-à-dire, on a proposé que Beyrouth a 6 ou 7 évêques catholiques, le Caire autant. Et bon, que faire? Puisque chacun... Il y a les Maronites, enfin il y a chacune de nos églises, nos 7 églises. Que fait? On a dit, bon, il faudrait, certains ont dit, on pourrait faire un tourniquet, enfin, chaque fois, l'archevêque de Beyrouth, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, ou bien on a l'évêque de la communauté la plus importante et des vicaires généraux. On a ce problème, et on doit l'affronter, et le résoudre comment? Mais le plus important, je reviens sur l'évangélisation, l'attitude est partout. Alors, au Liban, non. Je constate qu'il y a quelques centaines de baptêmes par an au Liban quand on somme les églises catholiques. Parce qu'il y a de la liberté, chaque paroisse a 1, 2, 3 au moment de Pâques. En Égypte, l'église copte orthodoxe qui fait au moins 8 millions n'ose pas baptiser. Les coptes catholiques, bon, c'est une toute petite communauté qui fait 225 000. Ce sont les protestants qui baptisent. Et pas les évangéliques, pas nécessairement, enfin, les nouvelles sectes. Non, la grande église, Injilia, évangélique, comme on l'appelle, mais ça veut dire protestante. Parce que eux disent, bon, on ne peut pas, c'est notre, enfin, nous avons cette mission. Il y a une lâcheté, une peur que Annie a expliqué en transmettant l'opinion de, enfin, une longue tradition. Il faut dire que dans beaucoup de pays, y compris maintenant toute l'Afrique du Nord, de plus en plus, celui est en Iran et en Turquie, celui qui évangélise ou passe un évangile est passible d'aller en prison. Et tout le monde n'a pas cette vocation. Pierre, je suis tout à fait d'accord que c'est notre que c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu sais que j'admire tout le travail que tu fais. Indépendamment de c'est pas pour envoyer des fleurs. Mais on n'est pas prêt, on n'a pas préparé nos prêtres, nos gens pour ça. Or, il est essentiel. Le Maroc a expulsé pour faire plaisir à ces extrémistes musulmans, a expulsé une centaine de protestants. Sans aucune justification, du jour au lendemain. En Algérie, maintenant, c'est l'évêque jordanien de Souche qui s'est opposé, qui a tenu tête au ministre des cultes, et il m'a dit qu'il l'a vu il y a encore un mois et demi pour dire, mais nous avons, on peut pas nous empêcher d'accueillir un musulman qui le demande. Alors que on sait combien, depuis la loi de 2006, il y a des restrictions. Il faut voir un peu toute cette situation difficile, et il nous faut l'affronter par une nouvelle attitude spirituelle et théologique.
Alors nous allons prendre une dernière série de questions. Ah oui, il y avait la question sur la solidarité, oui.
Comprise.
Oui, ben c'est finalement, chrétiens et musulmans, comment ils vivent ensemble?
Ils vivent dans la vie quotidienne. On peut vivre ça, vraiment bien. C'est-à-dire que, moi je dis, pour prendre une formule, avec des musulmans, je n'ai aucun problème, personnellement, mais vraiment aucun. Si je tombe sur quelqu'un qui est bouché, ben c'est le même problème qu'avec un chrétien bouché. Mais donc, c'est parce qu'il est bouché. Mon problème, c'est avec l'islam comme système. C'est ça notre problème, comme système politique, juridique, etc., et qui nous étouffe, et qui n'entre pas dans l'approche des droits de l'homme. C'est ça qui est inacceptable. On défend la personne humaine. Je ne défends pas un privilège quelconque. Mais privément, vraiment, il n'y a pas de problème.
Alors, une dernière série de questions. On va commencer par cette personne, en rouge. Levez-vous peut-être pour qu'on soit sûr que, voilà, le micro ne va pas vous échapper. Voilà, c'est bien elle, oui. Merci.
Bonjour Annie, on se connaît déjà?
Ah oui. Ah
ben, tout le monde se connaît ce soir, j'ai l'impression.
Elisabeth, je suis Elisabeth Gobry.
Oui, vous avez pas vu, oui.
Je voulais vous poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire un commentaire moi aussi?
Ah ben allez-y, s'il n'est pas trop long.
Au sujet de la souffrance de beaucoup d'évêques qui se sont manifestés pendant le synode en parlant particulièrement de la tragédie des chrétiens d'Irak, en disant que ça n'avait pas été assez abordé. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est pas du tout connu en France. Il a fallu qu'il y ait ce martyr magnifique avant-hier, ces deux prêtres assassinés, et cette centaine de blessés qui se sont terminés en 52 morts, pour que la France ouvre les yeux. Alors j'ai un message à vous faire passer de la part du ministre des Affaires étrangères qui m'a appelé tout à l'heure. C'est, je suis vice-présidente de l'association d'entraide aux minorités d'Orient. À ce titre, nous avons accueilli 1000 chrétiens réfugiés d'Irak. Et c'est aussi pour ça que je fais appel à vous. Et je voudrais répondre aux personnes qui souffrent, qui ont souffert pendant le synode, que Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner vont faire venir encore prochainement 150 chrétiens martyrs, c'est-à-dire les 50 blessés avec leurs familles, pour les accueillir, les soigner. Ils ne les obligent pas à rester en France, mais pour les soigner. Et je voulais aussi vous dire que les Français devraient s'intéresser beaucoup plus pratiquement aux chrétiens souffrants. Parce qu'il y a pas, dans le monde entier on souffre, dans le monde entier on vient en France en tant qu'immigrés, et il y a aussi l'église souterraine chinoise qui est là, en Paris. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que on va à des conférences, mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement pour eux? Et il y a je suis en train d'interpeller Mgr 23 et Mgr Brosselette à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de conférences et nous avons besoin d'aide pour accueillir tous ces chrétiens souffrants, ces réfugiés qui ont besoin, qui sont des exemples pour nous. Ma deuxième question, c'était, est-ce qu'on pourra faire une prière à la fin pour toutes ces personnes-là?
Je vous répondrai. Voilà. Merci. Alors peut-être une autre question tout au fond, voilà, merci.
Bonsoir. Je voulais revenir en fait sur plusieurs remarques que vous aviez faites au sujet de l'église du Maroc, parce que je reviens en fait du Maroc où j'ai vécu pendant 2 ans, donc en tant que chrétienne au Maroc, et j'aurais aimé un peu compléter ou même nuancer un peu vos propos, notamment sur votre anecdote de l'évangélisation et du témoignage de la foi. Et vous parliez aussi des expulsions récentes des protestants. Je sais que c'est pas forcément connu, mais ce qu'on m'a expliqué, parce que moi aussi j'ai été confrontée à ce sujet concrètement sur le terrain, je suis quelqu'un qui aime parler de ma foi, qui aime discuter même avec mes frères musulmans que j'ai croisés là-bas. Et donc j'ai été confrontée à ce problème. On m'a expliqué que là-bas, le Maroc est très attaché à sa stabilité politique. Et comme vous évoquiez justement des mouvements d'extrémistes musulmans, quand il y a trop de remous, l'État souhaite contenir toutes les minorités pour éviter des débordements. À ce titre-là, je crois, si je me trompe pas, que l'Église catholique n'est reconnue comme association et non pas comme Église. Et je pense que c'est un point important, c'est un peu une situation de statu quo. L'Église, quelque part, a accepté, c'est vrai, de vivre un peu en ghetto, mais pour pouvoir quand même exister, être présente auprès d'une population non négligeable de non-marocains, chrétiens, au risque de ne pas pouvoir vraiment officiellement échanger avec les musulmans. C'est une situation à laquelle j'ai été confrontée moi-même, et je peux vous dire que c'est un choix difficile, mais la présence au moins est garantie. Ce respect des autorités sur place fait qu'on a moins de risques d'être expulsés, et que toutes les populations subsahariennes, et il y en a beaucoup, 90% des gens qui venaient à l'église étaient subsahariens, 10% européens, et toutes ces populations avaient accès à la messe, et vous ne pouvez pas savoir comme je me réjouissais que l'église n'ait pas été expulsée. La deuxième chose, c'était par rapport à ce que vous disiez des ethnies. Et ça m'a frappé. Je pense que c'est un point qui est particulier au Maroc. Comme il y a 90% de subsahariens, il y a des gens de tous les pays. Ça m'a énormément touché de voir des gens de pays en guerre, assis sur le même banc, à chanter des chants tout au long de la messe, dans différentes langues, en lingala, en je ne sais quoi, et à chanter des chants de pays en guerre avec leur propre pays. Et ces échanges ont été très enrichissants entre ethnies. Et pour le coup, il n'y a pas d'ethnisation dans l'Église du Maroc. Et juste pour conclure, oui. Au niveau justement, comme vous disiez, des conditions de vie, je confirme qu'en effet, certaines populations sont encore tenues en esclavage dans ce genre de pays. Et j'ai moi-même justement été marraine à Pâques dernier d'une Ivoirienne qui a été esclave pendant 4 ans et qui a pu se tirer de sa situation au Maroc et être baptisée à Pâques dernier. Donc je confirme, mais je nuance un peu vos propos au sujet du Maroc.
Merci. Alors moi j'ajouterais une question que j'aurais voulu vous poser, c'est que ça a été un petit peu évoqué. Qu'est-ce que nous, communauté chrétienne ici, face à cette situation, qu'est-ce que nous pouvons faire de manière très simple, très concrète, pour aider un petit peu à cette situation? Je ne sais pas qui veut... Annie.
Merci mon père. C'est très simple, je crois. D'abord... il est très important d'apprendre à connaître les chrétiens d'Orient, donc s'informer sur leur situation, leur histoire, leur situation. Si on peut aller là-bas, c'est très très important pour les chrétiens au Proche-Orient. Ils se sentent comme ça, ils sentent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'on cherche à les connaître, à les soutenir. D'ailleurs, à ce sujet, pendant le synode, il a été dit qu'on a beaucoup encouragé les pèlerinages, mais on a demandé aussi à ce que les pèlerins qui viennent d'Europe ne se contentent pas d'aller voir les églises dominantes, les églises les plus importantes, par exemple en Terre Sainte, l'église latine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les latins, ce n'est pas ça. Mais il y a aussi des melkites, des maronites, des syriens catholiques en Terre Sainte. Donc il est important aussi de penser à aller les voir et de les intégrer dans des programmes de pèlerinage. Bien entendu, il y a l'aide matérielle qui est très importante aussi. Elle passe par des organisations qui sont bien connues, hein, l'œuvre d'Orient, l'aide à l'église en détresse, l'ordre de Malte, les chevaliers du Saint-Sépulcre, tout ça. Voilà. Et puis, il y a essentiellement, je dirais, la prière. Il faudrait intégrer dans notre prière, tous les jours, pourquoi pas, les chrétiens du Proche-Orient. Nous devons vivre une communion spirituelle avec eux. Je crois que c'est essentiel, ça. Prendre cette... avoir ce réflexe, si vous voulez. Voilà ce que...
Alors, d'abord, pour le Maroc, il n'y a rien à nuancer. Moi, je ne donne pas d'opinion. J'ai relaté des faits que j'ai vécus et des paroles qui m'ont été dites pour expliquer ces faits. Ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que la politique du roi, et ça se comprend, il veut calmer son extrême islamisme. Mais de le faire sur le dos des chrétiens, je trouve ça totalement inacceptable. Et même si c'est un pays ami, on doit protester. Même si c'est un homme qui a des problèmes avec sa propre population. Mais on voit bien que toute une partie... Enfin, j'arrête là. Deux choses que je dirais sur ce qu'on pourrait faire, pour reprendre ta question, François. D'une part... Je dirais que les chrétiens d'Orient ont une expérience plus que millénaire de la convivialité de la vie avec les musulmans. Tant du dialogue quotidien et de la vie amicale que de ce que veut dire un système islamique. L'Europe n'a pas d'expérience longue avec les pays musulmans, ni avec les sociétés musulmanes. Je pense que là, l'Europe pourrait vraiment profiter de l'expérience des chrétiens d'Orient pour leur demander quelle attitude adopter. Il y a une impudence à prétendre résoudre, parfois, pour être sincère, je vois... un coup à droite, un coup à gauche, ou bien selon qu'on est de droite ou de gauche, on est pour la multiculturalité ou pour l'intégration, etc. Il y a à réfléchir vraiment ce problème. C'est le problème majeur de l'Europe en ce moment, un des problèmes majeurs en tout cas, et chacun s'essaye à des solutions. Prenons donc au moins la compétence expérimentale de ces millions de chrétiens d'Orient. Et l'autre chose, juste pour renforcer ce qu'a dit Annie au sujet des voyages, disons, où on découvre l'Orient, de découvrir les chrétiens. Et notamment si on va en Terre Sainte, bien sûr, il y a les pierres. Et on va visiter, enfin, ces lieux. Mais il y a les pierres vivantes. Et c'est là qu'on pourrait apprendre un vrai dialogue entre chrétiens et où l'Occident apporte quelque chose aux chrétiens d'Orient au plan spirituel, apostolique, pastoral, etc. Et les chrétiens d'Orient apportent au même niveau leurs expériences. Un échange d'expériences à tous les niveaux et de connaissances au moins. Nous ne connaissons pas, à part des pays comme le Liban, disons, les Égyptiens ne savent pas grand-chose du christianisme en Europe et vice-versa. Il serait bon d'organiser des rencontres personnelles entre nos communautés respectives pour apprendre ensemble à faire l'Église. Voilà peut-être deux petites suggestions.
Voilà, il est 21h, nous n'allons pas, même s'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres thèmes encore à aborder, mais nous n'allons pas déborder par rapport aux horaires habituels de cette soirée. Je voudrais remercier très, très chaleureusement Madame Annie Laurent et le Père Samir Ralil de leur présence ce soir parmi nous. Je crois que les applaudissements nourris disent aussi combien il y a plusieurs points importants qui ont été touchés et qui vont continuer aussi à nous habiter, à nous travailler. Je pense à la question du témoignage et bien sûr aussi à la question de la solidarité, de la communion spirituelle. Il n'est pas habituel que nous terminions nos soirées d'éthique publique par un temps de prière, parce qu'il y a souvent d'autres personnes qui viennent assister à ces réunions et qui ne sont pas forcément chrétiennes. Mais je crois que, comme pour chaque thème que nous abordons ici, cela nourrit beaucoup notre prière dans les semaines et les mois qui suivent. Alors je suis sûr que cette solidarité avec les chrétiens d'Orient va habiter tout particulièrement en ces jours où nous avons le drame de Bagdad en tête, notre prière auprès du Seigneur. Vous pourrez trouver à la sortie les deux ouvrages du Père Samir Ali, Les raisons de ne pas craindre l'islam, et celui d'Annie Laurent, Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? Vous trouverez aussi à la sortie des urnes où vous pouvez déposer votre libre participation aux frais. Et puis, n'hésitez pas à revenir le mois prochain, le mardi 7 décembre. Nous essaierons ensemble d'y voir un peu clair dans la situation sociale de notre pays. Je vous remercie de votre attention et bonne soirée à tous.